Et au menu de notre club aujourd'hui, la génération des jeunes chercheuses, des yétis, des calmars géants et un spirou scientifique. Je vous présente mes invités dans un instant. Bonjour Axel Villard.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, la question des troubles psychiques chez les migrants.
Oui Mathieu, ils ont vu la mort, la guerre ou même subi des tortures et leur état mental pourrait empirer dans l'isolement. Comment aider les milliers de traumatisés qui arrivent en Europe? On en parle dans un instant à la une.
Stéphanie Texier réalise ce club de la tête au carré qui a été préparé par Chantal Le Montagny avec Lucie Sarfati.
La tête au carré. Le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Avec donc la nouvelle génération des femmes scientifiques de la cryptozoologie et un spirou scientifique dans le club avec mes invités Aurélie Bourdon, Nina Miolan, Benoît Grison, Frédéric Nifle et Jean-Yves Duhaut. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour. Bonjour.
Aurélie Bourdon et Nina Miolan, vous venez de recevoir une bourse L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science pour vos travaux de recherche. Sur quoi travaillez-vous exactement, Aurélie, pour commencer?
Alors moi je travaille sur la nutrition périnatale, c'est-à-dire la nutrition pendant la grossesse et pendant les premiers mois de vie.
Pour essayer de faire quoi exactement?
Pour essayer d'aider les bébés de petits pois à mieux grandir.
Nina Miolan, de votre côté?
Alors moi j'utilise les mathématiques, l'informatique et l'imagerie médicale pour créer un modèle de cerveau numérique. Oh. C'est ce qu'on appelle l'anatomie numérique.
On a envie d'en savoir plus et on va découvrir votre travail d'ici quelques minutes. Benoît Grison.
Bonjour.
Êtes-vous chasseur de yétis ou de calmars géants?
Pas vraiment, non. Mais je m'intéresse à l'ethnozoologie, donc au rapport entre la vision des différentes cultures des animaux, parfois fantasmées, et la réalité des 10 animaux énigmatiques, qu'ils soient Bigfoot, yétis, serpents de mer et tutti quanti.
Pas de scoop à nous annoncer pour l'instant?
Pas pour l'instant. Mmh. Des actes de décès de certains de ces animaux mystérieux qui visiblement passent dans l'imaginaire définitivement pour certains.
Frédéric Niflet, Jean-Yves Duhaut, Spirou faites la science avec un numéro spécial. Est-ce que les lecteurs de Spirou réclament de la science, Frédéric Niflet?
Je crois que la science est quelque chose de naturel, tout simplement. Donc ils réclament de la bande dessinée, et la bande dessinée parle de la science parce que la science est partout.
Avec des personnages emblématiques hein, qu'on retrouve régulièrement dans les pages de Spirou. Dans quel laboratoire est-ce que vous êtes rendu cette fois-ci, Jean-Yves Duhaut?
Je me suis rendu au CMS, un laboratoire qui se trouve à Toulouse. Mmh. C'est, pour dire le nom entier, c'est le Centre d'élaboration des matériaux et d'études structurales qui travaille sur les nanotechnologies et qui fabrique en ce moment des nano-voitures.
Tiens, ça nous rappelle un peu quelque chose avec le prix Nobel hein, de chimie. On va en parler peut-être avec vous et vous avez passé du temps dans ce laboratoire justement pour votre reportage dessiné. On se retrouve dans quelques minutes avec ces différents sujets et puis bien sûr les réactions et les messages des auditeurs sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. L'urgence de l'aide psychologique et psychiatrique à destination des migrants, c'est aujourd'hui à la une de la science.
Préfecture, réponse?
Préfecture?
Pas de réponse?
Reject.
Oui. Je revois le certificat que j'ai fait et je suis pas très fier de mon certificat. Quoi. Quoique si, j'avais mis quand même état psychique préoccupant, signe de dépression grave avec désocialisation, inhibition, repli sur soi, hypochondrie envahissante, et ils ont dit non.
Et c'est un extrait du documentaire La Permanence d'Alice Diop. Ils sont 1,4 million à avoir demandé l'asile en Europe depuis la mi-2015, 78 000 en France. Et selon un sondage allemand, 60% d'entre eux ont vu un proche mourir, 40% ont subi des tortures. Daniel Coren, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, membre de l'association Trace, de soutien aux victimes des violences politiques et des tortures. La revue Nature consacre cette semaine un dossier à ce sujet des troubles psychiques des migrants, sujet sous-médiatisé en France. À quel point les populations qui arrivent aujourd'hui de Syrie, d'Irak ou d'Afghanistan sont en péril psychologique?
C'est un péril énorme. Vous savez, l'être humain est fait d'un certain nombre des représentations qui organisent leur vie psychique au-delà des aspects, comment dirais-je, concrètement matériels qui organisent la vie de chacun. C'est-à-dire, tout le monde a une terre, une maison, mais aussi une langue, une culture et toute une sorte de représentation qui organise leur monde. Ces gens ont tout perdu, tout. Et donc, tous ceux qui organisaient leur monde et leur vie psychique se trouvent menacés.
Quels sont précisément les troubles dont peuvent souffrir ces hommes et ces femmes aujourd'hui?
Écoutez, le spectre est très large. Ça peut aller dans la revue Nature, l'article que vous avez évoqué tout à l'heure. Celui qui est évoqué en premier, c'est les syndromes de stress post-traumatique, qui est un syndrome qui a l'effet d'un trauma produit par une violence directe physique ou autre sur la personne elle-même ou sur son entourage. Mais il y a aussi des phénomènes des dépressions, voire des déstructurations de la personnalité qui peut aller jusqu'à des phénomènes psychotiques.
Est-ce que le rejet ou l'isolement peut avoir un impact sur l'évolution de ces séquelles ?
Ben certainement. Certainement parce que je vous parlais tout à l'heure de l'environnement des sujets humains. C'est évident que l'environnement joue un rôle prépondérant dans toute possibilité de reconstruction de ces personnes qui ont été quand même gravement atteintes sur le plan psychique.
Daniel Coren, toutes les populations de migrants sont touchées, les adultes comme les enfants ?
Absolument, sauf qu'il faut quand même signaler que les enfants sont évidemment beaucoup plus fragiles et donc beaucoup plus vulnérables.
Une petite question concernant l'urgence. On l'a vu en France, après un attentat, la mise en place très rapide de cellules de crise. Et pourquoi c'est important d'intervenir rapidement ?
Il est important parce que ça permet d'évacuer dans la mesure du possible le premier impact du trauma. Je dis bien le premier parce qu'évidemment il y a des retombées par la suite. Mais ce que je voudrais signaler, c'est qu'il y a quand même une différence des tailles, et je dirais des natures, entre les traumas subis par exemple en France par les gens qui étaient au Bataclan et les traumas des migrants. Parce que dans les cas de nos compatriotes qui étaient au Bataclan, eh bien, il existe, c'est-à-dire tout leur entourage n'a pas été atteint, tandis que pour les migrants, tout était détruit. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui entoure les traumas. Tout est traumatique pour eux.
Daniel Coren, selon l'Institut de sondage allemand BPTK, les populations de migrants ou de réfugiés ont 4 fois plus de chances de développer des troubles de la personnalité ou des schizophrénies. Comment vous interprétez ce chiffre ?
Pour la même raison que je viens de vous évoquer, un être humain a besoin d'un environnement favorable pour se construire et pour vivre. Et pour ces personnes, eh bien, tout cet environnement n'existe plus. Donc les possibilités que cette personne soit atteinte par des troubles psychiques graves, y compris jusqu'à la schizophrénie, sont accrues.
Au-delà du risque pour eux-mêmes, est-ce que ces gens en détresse représentent un risque pour les autres ?
C'est une question très difficile. Écoutez, il n'y a pas plus des passages à l'acte meurtrier, si j'ose dire, parmi la population psychiatrique que par la population générale. Donc ça, c'est un premier fait. Ceci dit, ce sont des gens qui, par définition, sont fragiles et qui, dans certains cas, peuvent passer à l'acte. Mais enfin, faut pas les criminaliser. Ce sont des gens qui sont en grande détresse et qui ont besoin des soutiens et d'aide.
Alors justement, Daniel Coren, comment d'abord on peut prendre en charge ces personnes une fois qu'elles arrivent donc sur notre sol ? Et est-ce qu'elles sont capables de véritablement s'intégrer, envisager de travailler, voire même d'apprendre une langue dans ces conditions psychiques tout à fait singulières ?
C'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que si on les prend en charge, si on les aide, s'ils sont dans un environnement qui leur permet de se reconstruire, ce sont des gens comme vous et comme moi, je ne vois pas pourquoi ils ne pourront pas apprendre une langue, s'intégrer et se reconstruire progressivement. Mais c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que les problèmes psychiques, si les conditions d'accueil ne s'améliorent pas, s'ils sont toujours dans la précarité, s'ils sont toujours dans la peur de ce qui va leur arriver aujourd'hui ou demain, si leurs souffrances ne sont pas prises en compte, qu'elles soient d'ordre physique ou psychique, il n'y a pas de raison que leur état s'améliore. Et c'est tout un ensemble de facteurs qu'il faut considérer de manière globale.
Mais qui est habilité ? Qui peut apporter cette première aide psychologique ? Est-ce que le milieu associatif a les moyens de gérer cela ?
Le milieu associatif a des moyens tout à fait limités. Il joue le rôle, mais évidemment, je pense que c'est plutôt à l'État de prendre leurs responsabilités. C'est l'État qui peut mobiliser les moyens nécessaires.
En montant quel type de structure, alors, selon vous, dans des cas d'urgence comme cela ?
Là, vous me posez une question qui dépasse mes possibilités de donner une réponse au clair. En tout cas, il y a des structures qui ont été formées, n'est-ce pas ? Les SAMU, par exemple, quand il y a eu des attentats. Mais il faut réfléchir. Vous-même, vous le dites, là, cette vague migratoire, c'est un phénomène relativement nouveau, c'est un problème nouveau, il faut trouver des réponses nouvelles.
Mais est-ce qu'au sein de l'association Trace, vous avez justement de l'expérience déjà dans ce domaine ?
Écoutez, l'association Trace mène toutes sortes d'actions. Il y a des actions qui se mettent en place avec les migrants qui sont d'une part les travails avec les équipes qui sont au plus près des migrants. parce qu'il y a des problèmes pour les équipes eux-mêmes, qui sont confrontées à des situations extrêmement difficiles, extrêmement dures, et qui n'ont pas toujours les moyens pour réagir. Mmh. Et puis, dans les cas où cela est nécessaire et possible, on agit en faisant des interventions d'ordre psychothérapeutique, notamment dans les cadres des consultations mère-enfant.
Une proposition qui vient d'Allemagne, les psychiatres qui préconisent de distribuer des antidépresseurs et des somnifères dans les camps. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ?
Que c'est très bien, mais c'est un peu comme mettre un sparadrap sur une jambe fracturée. C'est-à-dire que ce n'est pas les antidépresseurs qui vont sortir de la dépression quelqu'un qui est dans une situation épouvantable. Alors ça peut aider, ponctuellement, et certainement si ça peut aider, il faut le faire, mais ce n'est pas la panacée, ce n'est pas un remède miracle.
Merci Daniel Corel, en tout cas, je rappelle que vous êtes psychanalyste, et ce dossier est sorti cette semaine dans la revue Nature, donc autour des troubles psychiques des migrants. Merci beaucoup d'être passé par la Une
Merci
de la Science.
Merci à vous, à bientôt.
Merci. Et Axel, on se retrouve lundi, merci beaucoup.
Il me semble, bon week-end.
Bon week-end. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la législation française se cherche sur les cas d'insémination post-mortem. Hier, le tribunal administratif de Toulouse a refusé à une jeune femme le droit de récupérer le sperme congelé de son défunt mari dans le but de pratiquer une insémination artificielle. Mardi, pourtant, à Rennes, une autre femme a, elle, obtenu l'accord du tribunal administratif pour la même demande. Bien que les avis divergent et que les cas soient peu nombreux, la France doit se positionner sur la question, commente l'avocate de la Rennaise. Une chose est claire, aucun acte d'insémination post-mortem ne peut être pratiqué sur le sol français, et cette femme devra donc se rendre à l'étranger pour avoir un enfant. Sans oreilles ni tympans, les araignées sauteuses peuvent tout de même entendre. Placées dans une boîte isolante, coupées de toute vibration extérieure, ces petites araignées ont été soumises au son particulier de la guêpe maçonne, leur plus grande prédatrice. Et contre toute attente, elles se sont figées sur place, scrutant les alentours avec affolement visiblement. Les chercheurs expliquent que c'est certainement grâce à leur poil qu'elles entendent, car des électrodes placées sur leur tête montrent une activité importante dans les zones du cerveau dédiées normalement à l'audition. Déjà connues pour leur vue exceptionnelle, les araignées sauteuses sont parmi les insectes, une des espèces les plus dures à surprendre. Et puis deux semaines en montagne vous boostent pour des mois. L'explication empirique de ce phénomène, connu depuis plus de 50 ans, est que le nombre de vos globules rouges augmente en altitude pour pallier au manque d'oxygène. Cette explication était jusque-là incomplète, car en altitude, les globules rouges deviennent également plus collants et s'accrochent beaucoup plus vite et efficacement aux molécules d'oxygène. Un espoir, cette découverte, car ce changement de forme des globules rouges en altitude, induit par des traitements, pourrait aider les gens souffrant d'insuffisance respiratoire ou de déficience en globules rouges. L'effet de l'altitude sur le sang persiste environ 120 jours, une période qui correspond à la durée de vie moyenne d'un globule rouge. Et notre club de la tête au carré, comme tous les vendredis avec mes invités, c'est dans un instant, juste après I Can't Stop Thinking About You, Sting. Factory man. Cherchez pas dans vos vieux albums de Sting, car il s'agit d'un nouveau titre, I Can't Stop Thinking About You.
La tête au carré, le club, sur France Inter.
La génération des jeunes chercheuses, des yétis, des calmars géants, des serpents de mer, et puis un Spirou scientifique dans notre club cet après-midi. Vous nous rejoignez bien sûr en direct avec vos messages franceinter.fr et le mot-clé, la TAC. Comme chaque année, L'Oréal et l'UNESCO récompensent avec des bourses des jeunes femmes du monde entier qui sont en doctorat et post-doctorat. Elles ont toutes des projets scientifiques originaux et deux d'entre elles sont avec nous, Aurélie Bourdon et Nina Miolan. Félicitations d'abord à toutes les deux.
Merci.
C'est vous qui allez faire la science de demain, je vous mets un peu de pression là tout de suite d'entrée. Est-ce que vous êtes consciente d'incarner cette nouvelle génération de femmes scientifiques, Aurélie ?
Alors, consciente. Enfin, moi, pour moi, la science, ça se construit. On apporte chacun sa brique. Et comme je disais, on ne fait pas forcément tous les jours une grande découverte. Mmh. Donc, on en est consciente, mais ça nous paraît un peu un terme un peu...
Un peu pompeux,
un
peut-être.
Un peu pompeux, oui, ouais. Voilà.
Bon, oui, Nina Miolan.
Tout reste à faire. Hein. Nous, on est dans la recherche. Enfin, moi, je suis dans la recherche depuis 3 ans. Je finis tout juste ma thèse. Je mesure tout ce qui nous reste à parcourir pour faire la science de demain.
Ouais, bon, c'est le début. Hein. C'est bien parti pour vous quand même, parce que vous avez été repéré. Évidemment, c'est pas pour rien qu'on vous a distribué ces bourses.
Il y avait beaucoup de candidates. Hein.
C'est ça. Ouais, vous étiez mercredi donc à l'Institut Pasteur pour les recevoir, et vous avez eu une semaine de fou. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait toute cette semaine? Alors racontez-nous un peu.
Alors oui, on a été pris en charge toute la semaine depuis par L'Oréal, depuis dimanche, notre arrivée à Paris.
Même depuis l'été dernier.
Ouais, toi, t'es arrivée de Nantes, c'est ça?
Oui.
Moi, j'arrivais de Nice.
Ouais.
Donc, on était logés à l'hôtel à Clichy.
Oui.
Et à partir de lundi, on a eu donc des formations.
Alors oui, on vous a formé à quoi alors exactement?
À parler, à communiquer vers le grand public. Donc, on a eu un petit peu... C'est pas du théâtre, mais...
Si, c'est un peu ça. Oui, on avait des coachs, trois coachs différents.
Vous aviez vraiment besoin d'être formés, parce que vous avez l'air tellement...
C'est un peu différent.
Ils ont bien fait leur travail.
On va dire, nous, on a l'habitude de communiquer en congrès, des choses un peu vraiment devant un public spécialisé. Et là, c'était vraiment s'adresser avec des mots simples à un public, à un grand public.
Bon, on vous a préparé pour la tête au carré, quoi, en gros. C'était ça.
Voilà, aussi.
Vous avez une formation Wikipédia, pourquoi exactement?
Oui, alors ce matin, on a eu 4 heures de formation Wikipédia.
Bah,
c'était nous sensibiliser au fait qu'on pouvait contribuer.
Oui.
C'est vrai que moi, ça ne m'était pas forcément venu à l'idée que je pouvais compléter un article.
Mm-hmm.
Et donc, on a toutes créé un compte et ils nous ont montré comment faire.
Ouais. Mais il y avait un but aussi en direction des femmes de science, je crois.
Oui.
Hein,
un petit peu, oui.
Oui, parce qu'en fait, dans l'encyclopédie Wikipédia, il y a très peu, de pages qui sont consacrées aux femmes scientifiques.
Ouais.
Que ce soit dans l'histoire ou que ce soit les femmes...
Tout court.
Ça se reflète dans Wikipédia.
Mais que ce soit au niveau historique ou les femmes qui sont actuellement dans la recherche, elles sont pas dedans. Donc,
Benoît Raymond, état des lieux triste, mais toujours...
Oui, toujours d'actualité. Moi, mon idole, c'est Rosalind Franklin. Il n'y a pas grand monde qui connaît Rosalind Franklin. C'est celle qui a découvert l'essentiel de la structure de l'ADN.
Ouais,
et elle a aidé Francis Crick et
Watson.
James Watson. Mm-hmm. On le dit souvent, aidé. En réalité, elle a fait les 2/3 du boulot.
Et on oublie toujours la femme.
Et elle est morte fort opportunément à leurs yeux avant le Nobel, mais de toute façon, ils n'ont pas associé la plupart de leurs publications. Mm. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Elle n'aurait pas eu le Nobel avec eux. Et ça, c'est une injustice qu'ont réparé les historiens des sciences. Mais le grand public, encore aujourd'hui, quand il connaît les descripteurs de la structure de l'ADN, c'est Watson et Crick.
Donc, on a besoin de vous pour faire des articles.
C'est vrai qu'au niveau des contributeurs, oui. Wikipédia, je crois que c'est 87% sont des hommes.
Voilà, ils nous ont expliqué.
Donc, non seulement ce qu'on voit nous décrit sur Internet, mais les gens qui sont derrière tout ça, c'est une grande majorité de...
Frédéric Niflin.
Oui, on en parle dans Spirou, dans Mero, justement, de Rosaline.
Et vous avez des portraits de femmes.
Il y en a plein. Voilà. Il y a Rachel Carson, il y a Jocelyne Bell-Burnell, il y a Marie Hanning.
Voilà. C'est votre façon de traiter
les femmes.
Paléontologues.
Les grandes femmes.
Racontez-nous ce que vous faites. Alors, Aurélie Bourdon, vous avez reçu cette bourse, vous, pour vos travaux de recherche autour de la citrulline.
Oui.
Hein, dans la catégorie « Aider les premiers pas de la vie ».
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous faites dans votre laboratoire nantais?
Moi, je travaille en nutrition et donc je travaille plus particulièrement sur les enfants de petits pois de naissance. Mmh. Un bébé, ça pèse normalement 3,3 kg. Les petits pois, pour nous, c'est tous ceux qui sont en dessous 2,5 kg.
Ouais.
Donc, soit parce qu'ils sont prématurés, soit parce qu'ils ont, ils ont mal grandi pendant la grossesse.
Mmh.
Donc, ils ont un retard de croissance intra-utérin. Et donc, ces enfants, eh bien, ils ont des risques. Ils ont des risques immédiats. Plus ils sont petits, plus ils sont fragiles. Beaucoup de complications. Et on s'est rendu compte depuis un quart de siècle à peu près que des enfants qui grandissaient mal, eh bien, ils avaient des risques beaucoup plus tard, des dizaines d'années plus tard, d'apparition de maladies chroniques que vous connaissez tous, hein, l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Et moi, je me suis intéressée à... mathématiques, c'est essayer de bien faire grandir pour être en bonne santé.
Donc une bonne croissance.
Voilà, une bonne croissance, alors que ce soit in utero, c'est-à-dire pendant la grossesse, ou au moment de la naissance, quand les enfants sont trop petits, il faut les faire grandir, mais il faut qu'ils grandissent bien, et qu'ils plus tard soient en bonne santé. Et donc je me suis intéressée à une molécule qui s'appelle la citrulline.
Ouais, c'est très joli comme nom, ça vient d'où ça, la citrulline?
Alors, la citrulline, ça vient du fruit de la Citrullus latanus.
Ah, et alors,
vous
ça ressemble à quoi?
Régulièrement, alors c'est le terme latin de la pastèque.
Ouais.
Donc c'est une des seules sources naturelles d'ailleurs de citrulline. Oh. Notre intestin en produit, mais autrement, dans les aliments, il n'y a pratiquement que dans la pastèque qu'on en trouve.
Donc, vous êtes une obsédée de la pastèque.
Alors, j'adore ça, mais... alors je travaille sur cette molécule ça a été montré dans d'autres contextes, mais pourrait aider à améliorer le statut nutritionnel et fabriquer du muscle.
Ouais, alors c'est un vrai sujet, évidemment, parce que les problèmes de croissance et de petits pois sont très nombreux dans le monde. Ça concerne entre 20 et 30 millions d'enfants, c'est ça?
Oui, donc il y a 20 à 30 millions d'enfants qui naissent avec un petit poids de naissance chaque année dans le monde. Mais si on parle juste du retard de croissance intra-utérin, donc je vous ai parlé tout à l'heure, en France, c'est quand même à peu près 80 000 bébés par an.
Ouais.
Donc c'est quand même des chiffres.
Et alors cette citrulline, là, cet acide aminé, vous l'expérimentez sur l'humain ou uniquement sur l'animal pour l'instant?
Alors là, on a un stade préclinique, donc c'est encore sur des modèles. Prochainement, il va y avoir une étude qui va être faite chez la femme, dans un contexte un petit peu différent, mais aussi sur un contexte de pré-éclampsie, donc où il y a un problème de fonctionnement du placenta, où on va pouvoir donner cette molécule pour essayer de faire grandir aussi les bébés.
Donc là, vous avez des résultats chez le rongeur?
Là, j'ai des résultats pour le moment chez le rongeur.
Résultats intéressants, alors?
Oui, sur la synthèse de protéines du muscle d'un fœtus. Donc, c'est plutôt intéressant. Bon, pour l'instant, ça reste à un stade de recherche, dire préclinique, donc on aimerait pousser, savoir comment ça marche.
Amélioration qui suscite des encouragements en tout cas, pour aller plus loin autour de cet acide aminé. Nina Mulan, vous travaillez, vous nous le disiez tout à l'heure, sur le patient virtuel. Vous êtes chercheuse au sein de l'équipe projet Asclepios, c'est ça.
Hein,
c'est à l'INRIA Sophia Antipolis à l'Université de Nice. Vous travaillez également avec la Californie, l'Université de Stanford.
Oui, c'est ça. On est une collaboration, en fait, une équipe associée. Donc l'INRIA a des labos virtuels partout dans le monde, dont 37 équipes en Californie. Moi, je fais partie d'une équipe qui s'appelle GeomStat.
Ouais.
C'est des statistiques géométriques qu'on applique effectivement à l'anatomie numérique.
Alors, c'est quoi ce patient virtuel? Il ressemble à quoi exactement?
Alors, l'anatomie numérique, c'est une science très pluridisciplinaire. On utilise des mathématiques et de l'informatique pour analyser des images médicales, donc par exemple des IRM. Et en faisant des statistiques sur ces IRM, donc IRM c'est imagerie de résonance magnétique, en faisant des statistiques sur ces images de l'intérieur du corps humain, on va créer un modèle numérique d'un homme en bonne santé. Donc en pratique, si je prends une base de données d'IRM de cerveau, moi ce que j'ai fait pendant ma thèse, c'est que j'ai essayé de définir une théorie des statistiques qui pouvait traiter ces données, qu'on appelle donc les statistiques géométriques, pour pouvoir créer comme un modèle de cerveau moyen. Donc un cerveau numérique.
Donc ça peut permettre d'anticiper l'évolution d'une maladie chez une personne, par exemple ?
Oui, ça peut être ça. Donc une fois qu'on a ce modèle standard un petit peu du cerveau, on peut imaginer le personnaliser pour un nouveau patient qui arrive à l'hôpital. Donc
l'individualiser.
Mmh. On prendra en compte les paramètres de ce nouveau patient, on lui fait son modèle de cerveau, et effectivement, on peut faire des simulations d'évolution d'une maladie comme Alzheimer, par exemple.
Ouais. Est-ce que ça permet de faire du diagnostic précoce également sur les personnes ?
Alors oui, c'est à long terme, effectivement, mais c'est vrai qu'avec la puissance de calcul des ordinateurs et aussi toutes ces données qu'on peut récupérer sur les anatomies cérébrales, on peut faire des calculs peut-être très précis.
Bien sûr.
Benoît,
moi, ce qui me frappe, c'est que ça soit dans ton travail, on va passer au tutoiement, on se constitue à l'antenne, le tien.
Carrément, ça y est, on est
prêts.
C'est vendredi, on y va.
C'est le club. En fait, on est dans une approche préventive de la médecine. Oui. Alors que longtemps, la recherche biomédicale était une recherche curative, s'appuyant bien sûr sur la biologie fondamentale. Et maintenant, elle s'oriente vers une recherche préventive, selon le grand public.
Symptomatique aussi, on dit.
Oui, exactement.
Et pour Alzheimer, ça peut être très important parce qu'effectivement on peut pas nécessairement guérir cette maladie ni la stopper, mais on peut la ralentir.
Tout à fait. D'où
l'importance de la détecter le plus tôt possible.
Exactement.
Parce que si on la détecte avant qu'on ait les symptômes au quotidien chez les patients et qu'on peut la ralentir à ce moment-là, quelque part,
on
améliore
vraiment. On le retrouve aussi chez toi à propos de la citrulline, parce que si tu travailles sur le développement quelque part.
Oui.
Et on sait maintenant que le développement précoce chez les mammifères, pas seulement chez nous, c'est pour ça que tu dis les modèles animaux, peuvent avoir des conséquences parfois dans certaines périodes sensibles, beaucoup plus tard, à l'âge adulte.
Et nous, on dit justement bien grandir pour être en bonne santé et essayer de prévenir pour éviter d'avoir à guérir, c'est ça.
Voilà.
Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de vos thématiques de recherche, toutes les deux ?
Alors, moi, j'ai fait beaucoup de maths, en fait.
Ouais.
J'ai fait maths sup, maths spé.
Et il n'y avait pas beaucoup de filles, je crois.
Pas beaucoup de filles. Donc, en moyenne, on était à 10% à peu près de filles. Sachant qu'en sciences, il y a 30% de filles. On est encore sous-représentées, particulièrement en maths. Et pendant mon master, je les ai appliquées à la physique théorique, ces maths. Donc, je faisais ce qu'on appelle de la géométrie riemannienne et je l'appliquais à la description de l'espace-temps, enfin la relativité générale d'Einstein, des choses comme ça. Mais je me suis rendu compte que même si j'adorais les maths, je voulais les appliquer à quelque chose de différent, un impact un peu plus direct pour la société. Et en fait, en rentrant en contact avec mon directeur de thèse, qui s'appelle Dr Xavier Pennec, je me suis rendu compte que les mêmes maths, la géométrie riemannienne, étaient utilisées dans l'analyse d'images médicales.
D'où l'idée de faire vraiment le pont entre les deux domaines.
Et voilà, en fait, effectivement, c'est des profils qu'ils n'ont pas forcément... c'est assez rare, finalement, que les gens passent de physique théorique à imagerie médicale. Et donc, ça a intéressé et on a commencé à collaborer.
Et Aurélie, pour vous ?
Alors moi, la thématique, elle est venue plutôt avec des rencontres, en fait. Parce que je me suis spécialisée en nutrition et il se trouve que j'ai fait un stage dans un domaine où j'étais... J'apprenais à la fois de la nutrition, mais aussi des choses de pédiatrie, d'obstétrique, et ça m'a vraiment plu. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un doctorat avec cette équipe avec qui je m'entends très bien.
Bon, vous avez l'air tout à fait heureux, en tout cas, ça s'entend dans votre voix. Quel âge vous avez ? Quel âge vous avez ?
Moi, j'ai 25 ans.
25 ans.
Moi, je suis un peu plus vieille, j'ai 33 ans.
Oh là là, mon Dieu. Génération, donc, chercheuse avec L'Oréal et l'UNESCO qui vous ont remis ces bourses mercredi à l'Institut Pasteur. Vous restez avec nous, on va parler tout à l'heure de Spirou et puis de cryptozoologie avec toi, Benoît Grison.
Oui, volontiers.
J'attendais ça, rencontrer une fille comme toi, mon amour. Prêter mine de salta et ne nous fallait qu'une heure et trois jours. 2000 ans que j'attendais ça, qu'on me dise de tels mots d'amour. Tu mets la barre un peu plus haut, tu mets la barre toujours plus haut chaque jour. Tu dis qu'on ne joue pas pour la même équipe. À la fois trop plouc et trop chic pour une fille comme toi. mon amour. Je serai ton Alexandre et pourquoi pas ton Magnon, là pour toujours. 2000 ans que j'attendais ça, matin et soir et le midi, mon amour. Tu dis qu'on ne joue pas pour la même équipe. Puis tu dis que je suis à la fois trop lourd.
Decían hace 2000 años, no lo creía. Cantando con un francés acabaría. Mucho menos cumbia, rap y boom, boom, boom. Escribir canciones tomando cerveza y Coca-Cola con rum. Me dice que le encanta cantar conmigo. Todo es casi ridículo, de película te digo. Mi romántico cantante francés. Estaría escuchándote las 24 horas de los 31 días del mes. Me dice que soy la reina de Palermo, Queens. Yo le dije que no soy cantante, que soy actriz. Si me lo decían hace 2000 años, no lo creía. Escuchando La Mona Jiménez con Benjamín Violet terminaría. Me encanta ser su reina de Palermo, Queens. Y pareciera que absolutamente todo es posible en París. Todo es posible en París.
Palermo Queens, extrait de son dernier album Benjamin Biolay sur France Inter. Dans notre club également, un livre, Le bestiaire énigmatique de la cryptozoologie, du Yeti au calmar géant, c'est aux éditions de la Chouette Niestlé. C'est vous qui en êtes l'auteur, Benoît Grison. Vous êtes docteur en sciences cognitives, biologiste et sociologue des sciences. Et dans ce livre, donc, on découvre l'étude des animaux dont l'existence n'a pas été prouvée de façon irréfutable par la science. Hein,
c'est ça.
Les serpents de mer, les hommes sauvages, Bigfoot, c'est un tour d'horizon donc assez étonnant, passionnant, des créatures extraordinaires. Il y a une première question de Paul qui est arrivée sur le site de l'émission qui demande si la cryptozoologie est une science.
Alors, moi je dirais que c'est une interdiscipline, c'est-à-dire que ce n'est pas une science en tant que telle, mais la cryptozoologie sérieuse mobilise de la zoologie, de la paléontologie, de la sociologie bien sûr, et de l'anthropologie, de l'ethnologie.
Ouais.
Voilà. Et pour évaluer la vraisemblance des différents dossiers cryptozoologiques, parce que le problème, c'est qu'en général, on n'a que des empreintes, des pièces anatomiques, des témoignages recoupés.
Mmh. Bon.
Mais parfois, on arrive à prouver l'existence de l'animal, comme un sélacanthe indonésien qu'on a découvert en 1998, qui est quand même un animal qui, normalement, est éteint depuis 70 millions d'années, mais on avait déjà trouvé un 50 ans avant. Parfois, on arrive à montrer aussi que la bête n'existait pas, comme dans le cas du Loch Ness.
Ouais. Voilà. Alors justement, on se demande comment un scientifique comme vous travaille sur ces thématiques. Ça prend quelle part, au fond, dans votre travail de recherche?
Et ben, en fait, moi, je m'intéresse au savoir populaire et au rapport entre savoir populaire et savoir scientifique. Mmh. On en parlait un petit peu tout à l'heure là en micro, c'est que il y a des savoirs populaires qu'on peut récupérer pour la science, des savoirs traditionnels, par exemple en ethnopharmacologie. Inversement, les scientifiques parfois s'accrochent à des croyances qui sont anti-scientifiques et refusent par exemple pendant des siècles l'existence du calmar géant qui a été découvert en 1853.
Oui.
Donc cette frontière entre ethno-savoir, comme disent les anthropologues, des savoirs populaires et la science, eh ben, la cryptozoologie permet de l'explorer.
Oui. Le calmar géant, le premier filmé en milieu naturel, c'est 2013.
Et oui.
C'est incroyable.
On a cherché pendant des années à le filmer, mais on ne le connaissait que par quelques photos, et puis surtout des cadavres, parce que de temps en temps, les calmars géants prennent froid.
Pourquoi ça vous fait rire, Aurélie?
Parce que j'ai vu des photos un peu étranges dans le livre.
Et surtout pas très ragoûtant, parce qu'on pourrait difficilement plancher avec un calmar géant.
Décrivez-nous.
J'ai vu un calamar aplati.
Une crêpe de calamar, c'est ça?
Ouais. Bah, c'est le problème des dépouilles, c'est-à-dire qu'on a décrit les calmars géants. au sens large, hein, parce qu'il y en a deux espèces, sur la base de dépouilles. Et puis alors, comme ils adorent les courants froids, et que parfois, quand ils passent trop tôt dans un courant chaud, trop progressivement dans l'année, ils tombent malades, ils s'échouent,
mais
on
ça,
les
c'est
décrivait
bien.
Comme ça.
Mais ça, c'est pratique, l'échouage, parce que ça permet d'avoir des preuves.
Des preuves. Ouais. Mais on a eu la preuve de l'existence de cet animal qui était mythifié en partie sous le nom de Kraken par les Scandinaves qu'en 1853.
Ouais.
Et effectivement, ça ne fait quelques années qu'on l'a filmé.
C'est ça.
Mon collègue Kubodera l'a filmé au large du Japon, mais par un recoupement ethnozoologique et cryptozoologique très intéressant. C'est-à-dire, il a consulté, il a fait une enquête chez les pêcheurs japonais.
Ouais.
Notamment pêcheurs d'eau profonde, il leur a demandé si parfois ils avaient ramené de tels cadavres ou ils en avaient vu. Et peu à peu, il a circonscrit une petite région qui est évidemment une zone d'habitat.
Bingo.
Et après, avec des soucoupes plongeantes, il a fini par
le filmer. Il est tombé dessus.
Ouais. Voilà. Donc de la méthode. Et il a réussi ce que tous ses collègues ne réussissaient pas depuis des décennies. Alors peut-être de manière un peu narquoise, parce que les Japonais ont un sens éminent de la compétition, il a convié tous ses collègues concurrents dans la soucoupe au moment de l'expédition film, quand il savait exactement les zones précises où il y avait l'animal.
Donc ça c'est 2013, et en attendant, on a eu le temps de fantasmer bien longtemps sur ces bestioles.
Exactement, oui. Et alors, vous voyez, c'est là aussi un problème dans ces dossiers-là, c'est que, ok, l'esprit humain est très imaginatif, et c'est ce que vous disent souvent les positiviste, tout ça c'est des bêtises, c'est l'imagination humaine enfiévrée. Bon, hein, cette imagination qui engendre des monstres. Mais à l'inverse, la nature, l'évolution est très inventive. Et les calmars géants, les ornithorynques et autres animaux improbables pour le sens commun, mais qui sont quand même existants sur le plan biologique, et on les a parfois.
J'aime beaucoup cette citation en prélude de votre livre d'Humboldt, écrite en 1845. Une certaine rigueur scientifique dans le traitement des faits n'exclut pas nécessairement le pittoresque.
Oui. Et moi, je pense que Humboldt, c'est pas un hasard aussi, parce que c'est le premier à avoir dit les savoirs populaires en histoire naturelle peuvent être intéressants.
Ouais.
S'ils sont retraités avec méthode et avec rigueur.
Absolument.
Point de vue scientifique.
Le monde des lacs renferme beaucoup de créatures qui ont fait fantasmer. Petit détour par l'Écosse avec l'extrait d'un documentaire sur évidemment la star, parmi les stars, le Loch Ness.
D'après les chiffres, il y aurait juste quelques tonnes de poissons dans le lac. Un animal aussi grand que Nessie n'aurait pas assez de nourriture.
Il y a une explication au problème de la nourriture. Un jour, je trouverai. Mais demande-toi plutôt pourquoi on le voit beaucoup. Il ne se cache pas.
Un plésiosaurus a besoin de remonter à la surface pour respirer. Ce qui explique qu'il émerge et qu'on le voit.
Donc, Nessie réapparaît. Et tout le monde me prend pour un illuminé. Seulement les pêcheurs, eux aussi, l'ont vu. Ce qui veut dire que je ne suis pas si fou que ça. Je suis sûr, c'est moi qui ai raison.
Mais alors, si Nessie existe pour de vrai?
Quoi? Tu en doutes?
En fait, je voulais dire que Nessie n'est peut-être pas le seul plésiosaurus dans le Loch Ness. Et comment s'est développée cette espèce pendant 1500 ans? Aucun animal ne peut arriver à cet âge.
Voilà, extrait d'un film et non pas d'un documentaire, Le secret du Loch Ness en 2 minutes. Il y a deux stars au fond, hein. C'est le lac et c'est Nessie. Hein.
Oui, c'est ça, oui.
D'ailleurs, c'est amusant parce que quand on va en Écosse et qu'on se balade autour des lacs, en général, on est assez tranquille, il n'y a pas grand monde. Et puis tout d'un coup, on sait quand on arrive au Loch Ness parce qu'on voit des cars partout.
Ça génère une industrie touristique évidente. Ça, c'est clair. Après, ce qui est frappant, c'est que pendant des décennies, les riverains du Loch ont été persuadés de le voir régulièrement. Alors vous allez me dire, évidemment, beaucoup travaillent dans l'industrie hôtelière. Ah, mais même ceux qui travaillent pas dans l'industrie hôtelière.
C'est
par exemple, les moines bénédictins de l'abbaye de Fort Augustus, qui l'ont observé régulièrement. Bon, et alors la question du Loch Ness est passionnante dans le sens suivant. C'est qu'on a prouvé que les chaînes alimentaires, la pyramide alimentaire du Loch Ness, ne pourraient nourrir qu'un cétacé de grande taille. Pas une population, par exemple, un orque. C'est tout. Donc, on peut pas avoir une population de grands animaux comme ça. Donc, les gens se trompent. Mais par contre, la plupart des témoins n'étaient pas des menteurs. Ils se sont trompés sur la base de mirages, qui est à la surface du Loch, d'irruptions de petites populations de phoques communs qui passent les écluses et qui ont réussi à s'installer dans le Loch, de phénomènes de vagues sans vent qui sont liés à la structure hydrologique du Loch. En eau profonde, il y a une couche d'eau qui est très froide et qui de temps en temps crée des vagues sans vent qui ont l'air de s'opposer même quand le vent se lève au vent et qui donne l'impression en déplaçant un tronc d'arbre qu'il y a un être vivant. Donc il y avait quelque chose au niveau perception.
Ouais.
Le problème, c'était l'interprétation qui était erroné en termes d'animal et encore plus plésiosaurien.
C'est ça. Mais vous dites quand même à quel point justement un monstre comme ça devient partie prenante de la tradition culturelle de l'Écosse.
Ah oui, complètement.
Tout le monde s'en est emparé là-bas.
Complètement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une espèce, c'est très intéressant anthropologiquement, de sécularisation, c'est-à-dire de laïcisation des dragons des eaux. C'est-à-dire que les anciens Germains et les anciens Celtes enterraient leurs chefs dans les lacs. Ils mettaient la dépouille dans le lac avec un trésor. Bon, voilà. Parce que les lacs étaient vus comme une porte vers l'au-delà. Et il était censé y avoir un dragon qui protège le trésor. Enfin, c'était surtout pour que certains n'essaient pas, quand c'était près de la rive, de récupérer le trésor qui appartenait définitivement dans l'éternité au chef. Et peu à peu, ce mythe du dragon des lacs a été laïcisé au XXe siècle sur la base d'observations de gens qui, eux, étaient rationnels, comme vous et moi, voyaient des choses. Mais ce qu'ils voyaient, en fait, ça n'était pas ce qu'ils croyaient. C'était pas un être biologique.
Alors, ce
ou c'était
un phoque
distordu par un effet de mirage.
Le Loch Ness et Nessie, ce que vous racontez, c'est qu'il y a des grandes entreprises d'expédition qui sont parties là-bas, qui réunissent vraiment du matériel et encore aujourd'hui pour essayer de tenter de trouver la bête. Et puis on a des documents, il y a des photos. Il y en a une très célèbre d'un chirurgien, c'est Wilson. Probablement la photo la plus célèbre de Nessie.
Oui, complètement. Hein?
Alors c'est quoi cette photo? C'est de la bidouille totale hein?
Alors, cette photo-là a bien résisté à certaines analyses concernant les trucages. Genre à l'époque où elle a été faite, en 1934, les trucages possibles étaient beaucoup moins sophistiqués qu'aujourd'hui. On n'était pas à l'ère du numérique, on en était loin. Mais ce qui est amusant, c'est que les gens qui ont proposé l'explication... Et on dit que c'était une maquette. C'était une maquette et qui a été donc avec un petit moteur, etc. Et qui a été photographiée. On l'a envoyée loin dans le loch et on l'a photographiée. Ces gens-là, en fait, ont été aussi peu rigoureux que ceux qui croyaient à la photo parce qu'on a pu prouver que ce type de maquette à moteur n'existait pas à l'époque. En réalité, dans le Loch Ness, il y a souvent très peu de rationalité dans les débats. Les gens s'anathémisent, soit ils sont true believers, s'ils y croient, soit ils sont positivistes, mais un peu bornés, tout ça est stupide, ces gens sont stupides, etc. La réalité, c'est pas du tout ça. Il y a des gens qui perçoivent quelque chose. En fonction d'une tradition culturelle, celle du dragon des eaux qu'ils ont transformé en monstre plaisirien, ils voient des choses, mais c'est pas ce qu'ils croient qu'ils voient. Ouais. Ils perçoivent réellement.
Mais il y a plusieurs documents qu'on retrouve d'ailleurs dans ce livre.
Il n'y a aucune photo.
Il y a une nageoire qui traîne. Mais c'est amusant de le
photo,
voir.
Exactement, c'est amusant. Ouais. Mais aucune photo ne résiste à l'analyse scientifique ou du moins ne prouve quoi que ce soit.
Benoît Grison, rapidement, également le fantasme autour de l'homme sauvage et tout ce qu'il y a autour des primates énigmatiques.
Absolument.
Vous parlez par exemple d'Olivier, l'étrange chimpanzé.
Oui, alors ça c'est un cas très prototypique des fantasmes qu'on peut projeter sur nos cousins primates non humains. C'était Olivier, c'était un chimpanzé qui est en captivité aux États-Unis, qui marchait très facilement debout, ce qui est très difficile pour un chimpanzé. Certains gorilles ou certains chimpanzés en captivité y arrivent, mais lui, il le faisait naturellement et tout le temps. Alors, ça frappait les gens. Ouais. D'autre part, il était une intelligence remarquable parce qu'il y a une hétérogénéité cognitive chez les chimpanzés. Il y en a qui sont plus doués que d'autres. Et donc, il a d'abord été exhibé dans les cirques, mais en plus, il a fasciné des propriétaires qui l'ont racheté et qui ne l'exhibaient plus et qui étaient persuadés que c'était peut-être un hybride d'homme et le chimpanzé. À une époque où la génétique moléculaire était moins avancée, comme le chimpanzé et le bonobo sont nos plus proches parents, why not d'un point de vue scientifique? En réalité, pas du tout. Quand on a fait son karyotype, c'est un chimpanzé un peu plus ordinaire, ou plutôt extraordinaire par son comportement.
C'est ça.
Ses capacités cognitives individuelles, son adaptation à la vie des humains, mais ça n'était qu'un pauvre chimpanzé qui a mené quand même la plupart de son existence derrière des barreaux de cage.
Et on n'a pas fini d'en découvrir au sujet des chimpanzés. On en parlait lundi avec Franz Deval, justement, cette émission. Beaucoup de choses intéressantes. Vous parlez de la recherche du chaînon manquant, justement, autour des primates. Oui, c'était la grande quête. On retrouve ça donc dans cet ouvrage très bien documenté avec une magnifique iconographie du Yeti au calmar géant, le bestiaire énigmatique de la cryptozoologie. C'est aux éditions Delachaux et Niesley. Vous restez avec nous parce que dans un instant, nous allons parler du journal de Spirou qui consacre son dernier numéro à la fête de la science. Rien que ça. Bon après-midi sur France Inter. Bon début de week-end.
We'll be right back.
Orchestral Manoeuvre in the Dark avec Enola Gay.
La tête au carré. Le club.
Et pour la fête de la science, puisque nous y sommes encore jusqu'au 16 octobre, la rédaction du journal Spirou propose un événement avec ce numéro spécial science. Frédéric Niche, vous en êtes le rédacteur en chef, et Jean-Yves Duhaut, un des auteurs, illustrateurs de bandes dessinées, et notamment de la rubrique Le Labo. On en avait déjà parlé dans cette émission, et on aime particulièrement d'ailleurs ce rendez-vous. Aurélie Bourdon, Nina Miolan, qu'est-ce que vous lisiez quand vous étiez petite, vous, comme journal scientifique? Vous aviez déjà des choses qui vous
ont... Comme journal scientifique. Ce que j'allais dire, le journal de Mickey, mais c'est pas super scientifique.
On doit bien trouver un peu de science dans le journal de Mickey.
Oui, non, bah, Science et Vie Junior, surtout, oui.
Ouais.
Et Aurélie. Puis Science et Vie après.
Oui, moi aussi j'étais sur Science et Vie Junior.
Ouais. Spirou, non, c'est pas votre génération?
C'est pas la trop. Génération de tout le monde.
Petit blanc à l'antenne. Frédéric Niche, quel âge a Spirou?
1938, c'est effectivement 60.
Premier numéro du journal?
Voilà, alors c'est un hebdomadaire, et vous en trouverez, je pense, qu'un seul autre exemple d'un hebdomadaire qui a continué depuis 1938 à paraître chaque semaine.
Lequel?
Canard enchaîné.
Ouais. Donc c'est vraiment
c'est exceptionnel,
un journal qui passe les décennies sans problème et qui aujourd'hui colle toujours à l'actualité, parce que c'est ça aussi l'idée de ce numéro spécial. Hein.
Un journal ne peut résister sur le long terme que s'il se régénère tout le temps. Donc effectivement, c'est pas le même journal aujourd'hui qu'il y a 20 ans, qu'il y a 40 ans. Donc il colle à l'actualité, il colle à notre temps. Et bien, par exemple, il y a la fête de la science maintenant, ben voilà, on fait un numéro spécial, fête de la science.
Mais il y a toujours eu des liens quand même dans le journal de Spirou avec les scientifiques. Vous avez des personnages qui reviennent régulièrement.
Il y a surtout le savant fou, qui est quand même une figure assez récurrente de la BD. D'ailleurs, pourquoi est-ce que les savants sont forcément fous?
Comment
est-ce que vous êtes fou?
Comment il s'appelle, votre savant? Benoît Grison, non?
Avoir renforcé les stéréotypes.
Oui, ben voilà.
C'est bizarre.
C'est un vieux fantasme.
C'est un vieux fantasme.
Ça vient de la technoscience, comme on dit. C'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, la science est devenue puissante et a vraiment engendré des techniques qui pouvaient effrayer les gens. Et à ce moment-là, tout de suite, c'est l'idée de la personne qui construit des dispositifs très intelligents, mais sans penser aux conséquences.
Heureusement, il y a des gens qui ont des technologies.
Nina,
encore complètement le cas. On a une de nos collègues lauréates qui développe par exemple un moyen, bon, c'est pour aider les tétraplégiques à reprendre contrôle de leur environnement. Et concrètement, c'est par la pensée, est-ce qu'ils peuvent commander des objets? Donc j'imagine que ce type de découverte rentre complètement dans le fantasme.
Mais en mathématiques, la figure du mathématicien fou, il y a quand même de quoi alimenter la rumeur.
Il y a certains mathématiciens qui sont devenus vraiment fous. Cantor, Gödel était un petit peu...
Dans d'autres disciplines aussi et dans d'autres métiers.
Ah bon, alors revenons au journal de Spirou.
Il y a des savants fous dans ce numéro. Hein.
Alors lesquels? Lesquels justement?
Voilà, par exemple, ici, ce sont les imbattables, affronter un savant fou.
Newton était-il fou?
Vers la fin.
Oui.
Après la pomme.
Vers la fin.
Après la pomme.
À cause de ses expériences alchimiques.
Et voilà, exactement.
Les métaux lourds lui ont tapé sur le système nerveux. Ouais. Et ça, c'est un...
Alors, vous êtes malin maintenant, le journal de Spirou, parce qu'il y a un phénomène évidemment qui se développe, on en parle régulièrement dans l'émission, c'est celui des youtubeurs. Hein, et bien, vous les faites venir dans le journal. C'est-à-dire que Valentin, qui a une chaîne YouTube, il est présent dans le journal de Spirou.
Quand on vous dit que Jean Spirou colle à l'actualité, c'est un magazine moderne, voilà.
Ouais. Mais c'était quoi l'idée pour vous? C'était vraiment de transposer ce qui se passe sur YouTube sur du papier?
Non, franchement, c'est pas ça du tout. C'est parce qu'effectivement, ce YouTuber-là fait des expériences scientifiques. Mm-hmm. Fait des petites... Alors, c'est très agréable pour les lecteurs de se dire, tiens, je vais apprendre à fabriquer un verre multicolore, ou bien un vaporisateur maison, ou faire une mini-tornade. Voilà. Donc, ça se doute des fiches qui permettent aujourd'hui aux enfants, ou moins jeunes, de faire des expériences assez marrantes.
Frédéric Niffle, c'est vous qui avez eu l'idée de ces visites de labo avec Jean-Yves Duhaut?
Oui, parce que j'adore apprendre en m'amusant. Enfin, je trouve que tout est passionnant, et la science, effectivement, est un élément particulièrement passionnant. Et Jean-Yves a toujours cette espèce de rigueur qui me semblait très adaptée à la science.
Ça fait combien de temps que vous visitez les labos,
Jean-Yves? Depuis 2008, ça fait 8 ans, assez régulièrement. C'est vrai que c'est une rubrique qu'on a définie ensemble avec Frédéric au départ, au changement de formule du journal de Spirou. Et ça correspondait tout à fait à des travaux que j'avais pu faire avant, puisque j'avais fait pas mal d'illustrations pour la Cité des Sciences ou des travaux qui étaient toujours dans un certain domaine de précision. Puis au début, quand on est dessinateur, on ne se rend pas forcément compte de on va partir dans telle ou telle direction, et petit à petit les choses se dessinent d'elles-mêmes, entre guillemets. Et donc c'était tout à fait cohérent.
Et donc vous avez 4 pages à chaque fois pour nous faire découvrir un univers. Vous passez combien de temps dans chaque labo, comme celui par exemple de Toulouse, au CEMES, le Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales?
Je passe au maximum une journée, une grosse demi-journée. De toute façon, je passe le temps maximum que ma capacité d'absorption d'informations permet. Parce qu'au bout d'un moment, je ne peux plus rien...
Vous dessinez au fil de la visite ou comment vous faites
Non, je ne dessine pas pendant la visite. Je prends des notes écrites et je fais des photos.
Vous faites des photos,
Ensuite, je travaille de mémoire et pour faire mes esquisses. Et l'étape d'après, quand je fais le dessin, je mets des photos comme aide-mémoire sans chercher à recopier des photos, évidemment, parce que je reste dans un... Je tiens à rester dans un dessin...
Est-ce qu'on peut tout dessiner à l'heure justement de l'informatique et des ordinateurs? On voit vraiment, tout se passe aujourd'hui sur des écrans quasiment.
Oui, parce que je ne cherche pas à faire la même chose. Ce qui est dans le dessin, ce qui est extrêmement pratique, c'est justement de pouvoir changer d'échelle, de dessiner une structure à l'échelle nanométrique et puis dans la case d'à côté, de dessiner la Voie lactée ou une galaxie. Et le dessin permet de changer d'échelle de cette manière, de manière aussi simple, avec un personnage qui parle de ce qu'il observe. Et c'est pour ça que je ne cherche pas à être ni réaliste, ni chercher à concurrencer la photo.
Comment vous les choisissez, les laboratoires?
Alors, il y a plusieurs moyens qui se passent, plusieurs situations. Soit je m'intéresse à un domaine de recherche, je contacte le laboratoire, ça s'est déjà produit. Il s'avère que parfois, maintenant que la rubrique est connue, parce que l'avantage du journal de Spirou, qui est connu depuis très longtemps, c'est que les gens dans les laboratoires, soit l'ont lu quand ils étaient petits, soit ont des enfants qui le lisent.
C'est une bonne carte de visite.
Et en tout cas, tout le monde le connaît. Donc, c'est une excellente carte de visite. Parfois, des chercheurs contactent directement le journal en disant « Ah, mais si l'auteur du labo veut venir dans mon labo, qu'il n'hésite pas à prendre contact avec moi. » Et souvent, ça a donné des résultats.
Aurélie, Nina, il y aurait des choses intéressantes à dessiner dans vos labos respectifs? Nina Mulan?
Oui.
Des belles machines, des belles choses visuelles sur le cerveau, sur le patient virtuel?
Oui, comme alors à l'INRIA, à Sophia Antipolis, on a une salle immersive. Donc concrètement, vous entrez dans la salle, là, il fait un peu noir comme une salle de cinéma, et il y a un écran géant sur lequel on peut lancer notre software de l'équipe Asclepios qui s'appelle MedInria, comme Medical InRIA, ou Médecine InRIA. Et donc on peut afficher les images de cerveau sur ce très grand écran, et surtout les afficher en 3D. Donc vous mettez des lunettes 3D, vous pouvez voir un cerveau géant.
Dans un cerveau.
Et Aurélie, autour de vos petits rongeurs qui mangent de la pastèque.
Il n'y a peut-être pas des machines aussi impressionnantes, mais effectivement, je ne sais pas si on peut vous inviter sans problème.
Il faudra aller à Nantes dans ce
cas-là. Ah oui, à Nantes,
Oui, en général, je regarde les sites internet des labos et je prends contact
avec les plateformes techniques aussi.
Chercheurs, et ça se passe souvent autour de justement de rencontres, de discussions ou de réseaux.
En tout cas, très bonne idée, parce que vous rendez ces labos parfois un petit peu austères, il faut bien le dire, très agréables à découvrir, comme c'est le cas dans ce nouveau numéro spécial de Spirou, donc qui fête la science, et puis un gros article également sur la mission spatiale Rosetta et Philae, Frédéric Niffle, que vous avez mis à ce numéro, pour dire au revoir à Rosetta.
Exactement, avec le côté un petit peu anthropomorphique qui permet de donner une dimension un peu sensible à ce projet.
Merci beaucoup en tout cas à tous les cinq. Merci d'être passés par notre club. On va pouvoir reprendre le tutoiement et passer un très bon week-end. À bientôt.